Bonjour à tous, bienvenue dans le briefing quotidien des lancements Product Hunt. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Aujourd'hui, Claire, on a une sélection qui raconte presque une seule et même histoire sous des angles différents. Les agents IA écrivent de plus en plus de code, et tout un écosystème d'outils se construit pour les encadrer, les limiter, les rendre plus sûrs.
Exact. Et après le code, on glissera vers le quotidien. Des journaux qui se verrouillent, des souvenirs de famille transformés en films, des temps de trajet dans la barre de menu, et même des briques générées par IA. Mais commençons par le commencement. Que se passe-t-il quand ça casse en production à 2h du matin et que personne ne sait pourquoi ?
Voilà le problème qu'attaque Hyperprobe, un produit soutenu par Y Combinator. Leur constat, quand une équipe d'ingénieurs utilise des agents comme Cloud Code, Codex ou Cursor, la plupart du code part en production écrit par l'IA. Et quand quelque chose casse à 2h du matin, personne ne peut expliquer pourquoi le système s'est comporté ainsi. Pire, ces pannes ne se reproduisent pas en local. Elles passent les tests, passent la revue de code et n'explorent qu'en prod.
Et là, l'agent est aveugle. Il n'a que des logs et des traces qui, par définition, n'ont jamais capturé l'état en mémoire au moment du crash. Donc la boucle classique, c'est on ajoute un console.log, on redéploie, on attend, pendant que le problème saigne des utilisateurs. Hyperprobe dit on supprime cette boucle.
Concrètement, l'agent peut déposer des sondes en lecture seule dans le service qui tourne, via leur MCP. La sonde capture les valeurs exactes des variables que les logs n'avaient pas. Ensuite, l'agent débug comme s'il avait un reproduit en local et peut fermer le bug en une seule session.
Leur chiffre, passer de 3 à 4 heures à moins de 10 minutes pour trouver la cause racine, 0 redéploiement par incident et 0 ingénieur senior mobilisé. Et il raconte un utilisateur qui aurait résolu un problème de paiement en 9 minutes et demie. Là où leurs ingénieurs mettaient 4 heures. Mais bon, ça, c'est la promesse du créateur, pas un résultat vérifié indépendamment.
Et la communauté ne s'est pas laissée avoir. Un commentateur a pointé quelque chose de très juste. En lecture seule, ce n'est pas la même chose que sûr. La sonde remonte quand même des valeurs de variables en direct. Première question de n'importe quelle équipe sécurité. Que se passe-t-il quand l'agent sonde la frame qui contient un numéro de carte ou un token de session? Et où cette valeur finit-elle dans votre stockage?
Autre critique, le zéro surcharge. Il faudrait un chiffre de latence P99 à côté, parce que cette formule fait beaucoup de travail dans la phrase. Et sur le plan de la gouvernance, en lecture seule, ça veut quand même dire que l'agent décide seul, à 2h du matin, quel service de production sonder et quoi inspecter. Y a-t-il une étape d'approbation humaine, un journal d'audit de chaque sonde déposée, ou est-ce que la frontière de confiance, c'est juste « on fait confiance au jugement de l'agent ».
Ce qui est intéressant, c'est que la page produit répond en partie à ces inquiétudes. Hyperprobe dit que la sonde est non bloquante, qu'elle ne pose aucun thread, que les requêtes continuent à pleine vitesse, avec moins de 1% de surcharge à 3000 requêtes par seconde. L'agent capture l'état, mais ne peut pas écrire en mémoire ni exécuter du code. Chaque sonde est tracée dans un journal d'audit immuable, avec approbation exigée, jusqu'à ce que vous fassiez confiance au système.
Et côté données, ça tourne dans votre infrastructure, auto-hébergée ou dans un VPC privé, rien ne sort de votre environnement, et la PII est masquée par l'agent avant la capture. C'est votre équipe sécurité qui définit ce qui peut être observé. Donc les réponses existent sur le papier, mais des commentateurs demandaient quand même des précisions, notamment sur les certifications comme SOC 2, RGPD ou IPA. Et certains demandaient un support de Go, ce qui suggère que les langages couverts, JavaScript, TypeScript, Java, Python, Ruby, ne suffisent pas à tout le monde.
Leur scénario est d'ailleurs assez parlant. À 2h47, une alerte PagerDuty, 23% des requêtes sur le service de commande en erreur, pas d'exception dans les logs. Hyperprobe suit la chaîne de traces, découvre que le service de paiement renvoie des 404 pour des paiements qui existent pourtant chez le prestataire. Il pose une sonde sur le webhook, et 2 minutes plus tard, le prestataire envoie un statut pending que le code ne gère pas. Bug trouvé sans redéploiement.
Voilà un exemple concret de ce qu'ils appellent les échecs silencieux. Une réponse 200 avec le mauvais contenu, la trace toute verte et la valeur qui expliquait tout jamais journalisé. Bref, Hyperprobe, c'est pour les équipes back-end qui livrent vite et veulent donner à leurs agents des yeux et des oreilles sûrs dans le code en production.
Passons à un autre angle du même problème. Même quand l'agent répare, il n'apprend rien. C'est le diagnostic de Reflexio. Yi, le cofondateur, ancien tech lead chez Meta et professeur à l'université de Washington, résume la frustration. Un agent qui a échoué sur une tâche, hier échouera de la même façon aujourd'hui, pour des utilisateurs différents, parce que rien ne relie ce qui s'est passé en production à son comportement futur.
La boucle d'apprentissage en ligne n'existe pas. Et la fermer à la main, lire les traces, repérer les échecs, réécrire les prompts, c'est un travail interminable. Reflexio observe donc les traces de l'agent en direct, apprend des réussites, des échecs et des corrections des utilisateurs et transforme tout ça en leçons que l'agent réutilise. Leur chiffre de cas d'étude, moins 36% de taux d'échec, moins 57% de tokens et une meilleure qualité de réponse dans 47% des interactions, toujours à prendre comme des revendications du créateur.
Leur exemple est très parlant. Un utilisateur écrit « Il y a un débit de 49,99$ sur ma carte que je ne reconnais pas. » Sans réflexio, l'agent rembourse juste ce montant. 10 minutes plus tard, l'utilisateur revient. « Il y a aussi un débit de 9,99. » Deux conversations. Avec réflexio, l'agent avait appris à chercher dans toute la fenêtre de débit récent avant de résoudre, et à tout présenter en un seul message. Une conversation, l'utilisateur était déjà parti.
L'architecture est intéressante, pas de réentraînement de modèle. Vous publiez ce qui s'est passé, réflexio en extrait ce qu'il faut faire différemment, et l'exécution suivante relie ça au bon moment. L'intégration passe par un SDK léger autour de vos appels LLM existants, Python, REST, CLL, ou par un skill portable que vous donnez à Claude Code ou Codex, qui intègre la boucle dans votre dépôt lui-même.
Et ce qui ressort beaucoup des commentaires, c'est la partie révisable. Chaque leçon est visible, auditable, réversible. On peut la réécrire, l'approuver, la rejeter ou la supprimer. Et une leçon rejetée cesse d'être utilisée immédiatement. Vous pouvez même configurer l'agent pour qu'il n'utilise que ce que vous avez signé. Les leçons sont aussi auto-ajustées. Reflexio observe comment une leçon performe réellement, les sessions qu'elle a améliorées et celles où elle a échoué, et la réécrit à partir de ses cas réels. Et quand votre politique change, leur exemple, la fenêtre de remboursement passe de 30 jours à 14, l'ancienne leçon est remplacée au lieu de rester figée.
Mais la communauté a posé la question difficile. Et si une correction d'utilisateur était un mauvais conseil? Si quelqu'un a mal compris la tâche et a poussé l'agent vers une réponse fausse avec assurance, et que ça devient une règle générale appliquée à tout le monde? Y a-t-il un seuil de confiance, une signature humaine avant qu'un pattern individuel devienne le comportement par défaut?
Question connexe dans les commentaires. Est-ce que Reflexio ajuste le prompt dynamiquement, le contexte few shot, ou fine-tune les modèles en arrière-plan? Comment gère-t-il les retours contradictoires entre utilisateurs? Apprend-il par utilisateur, par agent, ou globalement? Et une question méthodologique honnête, c'est moins 36 et moins 57%, mesuré comment? En AB entre agent avec et sans, ou en avant-après sur le même trafic de production? Ce sont des questions encore ouvertes d'après ce qu'on voit. Enfin, un commentateur s'est amusé à soupçonner que sous le capot, c'est juste une boucle avec des fichiers Markdown. C'est en tout cas comme ça qu'il fait apprendre ses agents, lui.
Restons dans ce fil. L'agent écrit, casse, apprend, mais qui relie tout ça avant que ça parte. C'est le problème de David, le créateur de GitWarren. 15 ans de métier, et aujourd'hui il jongle quotidiennement entre 5 à 7 sessions IA simultanées. Son constat, le goulot d'étranglement, c'est la revue de code et surtout l'endroit où on l'a fait.
Parce que dans beaucoup d'environnements, hors de question de balancer d'un coup du code généré par IA sur le GitHub de l'entreprise. Au moment où c'est poussé, ça doit être à peu près prêt pour la revue par les collègues. Alors il se retrouvait à copier-coller ses commentaires entre terminaux et IDE. Ce qu'il lui fallait, disait-il, c'est un GitHub local. L'expérience de revue GitHub, mais avant le commit, sur sa propre machine.
Donc GitWarren, une application locale de revue de code façon pull request, qui travaille directement sur votre working tree. Vous pouvez relire les changements commités, stagés, non stagés et même les fichiers non traqués. Laissez des commentaires en ligne, organisez le travail en revue sans rien pousser nulle part. Et vous connectez l'agent que vous voulez via MCP.
Le point clé conceptuel, la sortie d'un agent, ce n'est pas un commit, c'est un working tree sale. Tous les autres outils de revue attendent la pull request. GitWarren dit, quand le travail est commité, poussé et ouvert en PR, vous avez déjà accepté sa forme, et le moment où la correction était bon marché est passé. L'app trouve le worktree où la branche est extraite, ou qu'il vive sur le disque, et replie fichiers stagés, non stagés et non traqués dans un seul diff lisible.
Et les agents participent à la revue au lieu d'en être seulement l'objet. GitWarren embarque un serveur MCP en STDIO. On pointe Claude Code, Codex ou n'importe quel client MCP dessus. Et l'agent reçoit les mêmes 17 outils que l'app. Ouvrir une revue, lire la discussion, répondre dans un fil, commenter une ligne, en résoudre une. Vous pouvez demander à l'agent d'expliquer son propre diff ou de répondre à votre question sur la ligne 40. Et la réponse reste dans la revue.
Détail qui montre qu'ils ont réfléchi. Les commentaires machines sont toujours attribués comme tels, et le nom de l'outil vient du Handshake MCP, pas de ce que le modèle a décidé de s'appeler ce jour-là. Deux agents restent deux. Chaque session MCP a son identifiant, donc on les distingue dans le fil, même s'ils travaillent en même temps. Côté vie privée, tout est local par construction, pas de compte, un seul fichier SQLite pour vos revues, et rien n'est mis en cache, chaque diff est relu depuis Git au moment où il s'affiche.
C'est gratuit, open source sous GPL 3.0, macOS, Windows et Linux, installable via Brew. Windows n'est pas encore signé, précise le créateur, et la communauté a posé deux questions très concrètes. Comment ça gère quand deux sessions touchent les mêmes fichiers en même temps? Est-ce un diff plat ou peut-il signaler deux modifications sur le point d'entrée en collision avant même la revue? Et est-ce que ça marche avec plusieurs Git worktrees du même dépôt à la fois? Des questions encore en suspens dans ce qu'on a sous les yeux.
Dernier outil de ce bloc et un pont vers la suite, diff.sh. L'origine est savoureuse. David, le créateur, avait demandé à Claude Code d'ajouter des feature flags à un projet. L'agence s'est retrouvée bloquée devant la création de compte et la clé API exigée par la plupart des outils de flags et a abandonné en écrivant simplement une variable d'environnement à la main.
D'où diff.sh, des feature flags open source où chaque flag est un fichier markdown qui vit dans le dépôt à côté du code qu'il contrôle. Ce qui fait, pourquoi il existe, quelle décision a été prise, le tout relu en pull request comme n'importe quel changement. L'agent installe diff en une commande sans compte et lit un fichier de contexte généré à chaque build pour savoir quels flags sont actifs et ce qui a déjà été essayé.
Et c'est plus large que les flags. Les tests AB, les holdouts et les déploiements progressifs sont le même format de fichier. La config cible des attributs déclarés, pays, plan, visiteur récurrent. Mais les valeurs arrivent à l'exécution, donc aucune liste de clients n'est jamais committée. Le build vérifie les conflits. Si deux tests actifs risquent de toucher le même utilisateur, la compilation échoue en CI plutôt qu'en production. Les groupes d'exclusion garantissent qu'aucun utilisateur n'est bucketé dans deux tests à la fois.
Pour l'analyse, vous pouvez envoyer les événements vers vos propres outils, Segment, Amplitude, votre warehouse, ou brancher DiffTrack avec une clé DiffCloud pour que la lift soit calculée pour vous. Et la commande DiffConclude archive le test, rédige un bloc décision et ajoute une ligne au journal de la surface pour que le prochain test démarre informé. Le contexte.json, ils le décrivent comme uncloud.nd pour les expériences.
Le timing a été noté par la communauté. Flipped Cloud, Reflag et Hypertune ferment leurs portes. Donc le lancement arrive à un moment où les équipes cherchent. Plusieurs commentateurs ont salué le « une commande, pas de compte », comme exactement ce qu'il faut pour que les agents finissent l'installation sans buter sur un mur d'inscription.
Mais un commentateur a livré la critique la plus incisive. David avait explicitement demandé la version critique. Flag dans Git, ça veut dire que retourner un flag demande un commit, une revue et un déploiement. Or, la raison pour laquelle les équipes payent un service de flag, c'est le kill switch à 2h du matin sans aucune de ces étapes. Pour des flags orientés agents, c'est un compromis acceptable. Pour un rollout progressif ou un incident, ça ne l'est pas. Et le markdown ne résoudra pas les flags morts. Rien n'est relu quand rien ne change. Donc le flag que personne n'a touché depuis 4 mois branche toujours en prod.
Autre question ouverte, comment ça gère les conflits de merge quand deux personnes ou deux agents éditent le même fichier de flag? Réponse implicite, c'est un conflit Git normal. Et est-ce que la structure de fichier reste gérable quand le dépôt grossit? Bref, une idée séduisante avec un vrai débat sur ses limites.
Et ça nous amène naturellement à la suite. Parce que dans tout ce qu'on vient de voir, Reflexio qui apprend des leçons, diff.sh qui documente ce qui a été essayé, il y a une même intuition, il faut encadrer l'agent. Et certains vont plus loin, il faut lui apprendre la retenue. C'est littéralement le créneau de Ponytail.
Ponytail, c'est un plugin qui donne aux agents une règle d'arrêt. Écrire le moins de code qui fonctionne. Avant d'ajouter quoi que ce soit, l'agent doit vérifier si le changement est vraiment nécessaire, s'il existe déjà, ou si la bibliothèque standard ou une API native peut le faire. La échelle en 7 barreaux. Est-ce que ça doit exister? Pas de code spéculatif? Yagni. Est-ce déjà dans ce code base? Est-ce que la stdlib le fait? Est-ce qu'une fonctionnalité native de la plateforme couvre le besoin? Leur exemple, input type date plutôt qu'une lib de sélecteur. Est-ce qu'une dépendance déjà installée le résout? Est-ce que ça peut tenir en une ligne? Et seulement alors, le code minimal qui marche.
Leur benchmark médiane sur 12 tâches de fonctionnalité sur un dépôt FastAPI plus React, 54% de code en moins, 22% de tokens en moins, 20% de coûts en moins, 27% plus rapide, sécurité préservée, validation, gestion d'erreurs, sécurité et accessibilité ne sont jamais simplifiées, disent-ils. L'exemple vedette, un agent qui écrit une classe cache manager de 50 lignes, là où un décorateur LRUcache suffisait. Même comportement, 48 lignes en moins, 0 bug dans du code qui n'existe pas.
La description du créateur est drôle. L'analogie du développeur senior blasé, lunettes, queue de cheval, qui dit rien, écrit une ligne et ça marche, et sa thèse. Une bonne partie des outils de l'année dernière ont enveloppé le modèle dans plus de processus. Ponytail fait l'inverse. Une fois que le modèle s'est livré, la partie difficile, c'est de le faire arrêter. Peut-être que le prochain super pouvoir, c'est la retenue.
Ça s'installe en deux lignes pour Claude Code, et ça marche aussi avec Codex, Cursor, Windsurf, Clean, Z et une quinzaine d'autres agents. Il y a des intensités lit, full, ultra pour le cas où votre codebase vous a fait du mal personnellement. et des commandes pour auditer le dépôt à la recherche de sur-ingénierie ou collecter les raccourcis différés.
Mais une question de la communauté mérite d'être posée à voix haute, quand la fonction stdlib existante n'est qu'une quasi-correspondance. Gestion de cas limites différentes, type de retour légèrement différent, est-ce que Ponytail pousse l'agent à forcer le mauvais outil juste pour éviter d'écrire quelques lignes, ou sait-il qu'en réutilisé, introduirait un bug plus subtil que du code frais? C'est la limite potentielle d'une règle d'arrêt aussi ferme. Un autre utilisateur demandait si ça accélère réellement les tâches, l'hypothèse étant que trouver du code réutilisable coûte moins de temps que générer du neuf.
Et l'autre réponse à l'excès des agents, c'est la facture. Experience Labs prend le problème par là. Une passerelle IA open source, écrite en Rust, sans marche sur les tokens. Une seule clé pour plus de 1000 modèles via leur marketplace, vos propres clés de providers, ou des modèles auto-hébergés et locaux derrière le même endpoint. Vous payez le prix du provider, zéro markup. Un utilisateur le résume bien. C'est Open Router sans les 5% de marge.
Kion et Silène, les deux fondateurs, sont chercheurs en IA. Leur constat de départ, à chaque nouveau modèle, un compte de plus, une clé de plus, un endroit de plus pour suivre les dépenses. Mais Experiential veut être plus qu'une passerelle. Chaque requête partage un format de trace unique, ce qui permet de repérer les ratés de cache, recommander de meilleurs modèles, identifier ce qui devrait tourner de façon asynchrone ou par lot, et entraîner un modèle spécialisé que vous possédez.
Sur les modèles spécialisés, ils citent deux études de cas, toujours leurs chiffres, à prendre comme tels. Un agent d'usage d'ordinateur, un modèle 9B distillé puis scoré en simulation en boucle fermée, avec moins 97% de coûts et 7 fois plus rapide que leur référence, en complétant 50% de tâches de plus que le modèle 9B n'entraînait. Et un modèle de recherche de Clem, 4B entraîné par GRPO, avec plus 10,9% de précision, 9,4 fois plus rapide, 90% moins cher. Le point important, le fine-tuning ne se met jamais en route tout seul, c'est vous qui l'activez.
Côté gestion, une console avec attribution des dépenses par agent, personne, modèle ou jour, des clés avec plafond, journalier, hebdomadaire, mensuel, des rôles, des allolistes de modèles, des scopes, local seulement. Un admin fixe les caps une fois et ils sont appliqués à chaque requête. L'intégration se fait en changeant l'URL de base, le streaming passe token par token, et le dernier onglet de leur doc est un prompt à donner à Cloud Code, Cursor ou Codex pour que l'agent fasse l'installation lui-même.
Traction revendiquée. Depuis un lancement sur Hacker News, une semaine plus tôt, plus de 1000 développeurs et 50 entreprises auraient traité plus de 10 milliards de tokens par jour, avec plus de 880 étoiles GitHub. Et pour le lancement, plusieurs modèles étaient offerts gratuitement jusqu'à la fin de la semaine, ce qui a d'ailleurs intrigué un commentateur qui demandait comment il pouvait offrir GPT Astra et autres sans coût et quelle était la limite de tokens.
Et là encore, la question sensible est restée en suspens dans les commentaires. Comment Experiential gère-t-il les prompts et les données de trafic sensible quand il apprend de l'usage? Quelqu'un demandait aussi si la localité du cache fait partie du calcul de routage, à partir de quand un cache chaud l'emporte sur les gains de routage. Et une remarque, un peu sceptique, d'un utilisateur sur la sécurité d'entrer ses informations bancaires pour la plupart des modèles. Bref, beaucoup de potentiel, des questions de confidentialité et de routage pas encore tranchées publiquement.
On peut d'ailleurs faire le lien, diff.h écrit ce que l'agent a essayé dans des fichiers Markdown, Reflexio transforme les échecs en leçons réutilisables, Ponytail lui apprend à ne pas trop écrire, Experiential optimise ce qui transite. Si on relit les points, on devine presque un GitHub local pour agent, qui émergerait de cette convergence, Git Warren le dit d'ailleurs à moitié lui-même, son créateur se demandant si son app pourrait devenir un lieu de rencontre locale avec d'autres usages.
Passons à autre chose, mais restons dans le thème de la franchise et de la friction réduite, cette fois dans la vie personnelle. Premier produit, ATET8PM, un journal intime pour iPhone avec une règle simple et radicale. Chaque entrée que vous écrivez aujourd'hui se verrouille à l'heure que vous avez configurée, 20h par défaut. Une fois verrouillé, c'est fini. Pas d'édition, pas de réécriture de l'histoire, pas de polissage discret de ce que vous avez ressenti sur le moment.
Le créateur explique sa motivation. Il voulait capturer ce qu'il ressentait vraiment à l'instant, pas ce dont il se souvient avoir ressenti plus tard. La plupart des applis de journaling permettent d'éditer, réécrire, supprimer. C'est utile, mais ça rend trop facile la réécriture involontaire de sa propre histoire.
Concrètement, on écrit en texte riche, gras, italique, souligné, barré, ou on enregistre une note vocale, ou un scope, leur terme pour une vidéo carré rapide, filmée directement dans l'entrée, avec possibilité de retourner la caméra avant de commencer. On peut ajouter photos et localisation. Il y a un anneau de verrouillage qui montre le temps restant avant la fermeture du jour, un compteur de série et des humeurs par entrée.
Côté vie privée, c'est soigné. Les entrées se synchronisent entre vos appareils via votre iCloud privé, jamais via un serveur tiers, et on peut verrouiller l'app derrière Face ID. Le développeur déclare ne collecter aucune donnée, et il y a une petite tension amusante à connaître. L'app est gratuite jusqu'à deux entrées par jour, et le verrouillage est censé être définitif, mais on peut dépenser des crédits de déblocage payant pour ouvrir une entrée verrouillée pendant 24 heures. Entièrement optionnel, précise-t-il, mais ça relativise un peu la philosophie du produit.
Un commentateur a d'ailleurs noté exactement ça. Le fait de verrouiller par défaut, au lieu de vous tenter d'éditer plus tard, c'est tout le produit. La plupart des applis de journaling vont dans l'autre sens. Sa question. Si vous voyagez entre plusieurs fuseaux horaires, l'heure de verrouillage suit-elle l'heure locale du téléphone ou reste-t-elle ancrée au fuseau de configuration? Question encore sans réponse dans ce qu'on a. Un autre demandait une version Android. L'app est pour l'instant uniquement iPhone et requiert iOS 26 février ou plus récent.
Enchaînons sur un produit plus émotionnel, Retold. Son créateur, Carl, l'a construit à partir d'un deuil. Sa grand-mère est décédée il y a quelques années et il lui restait un message vocal qu'elle avait laissé à sa sœur et des clips rigolos où elle essayait d'utiliser Alexa. Entendre sa vraie voix compter, mais des fichiers audio dans un dossier du téléphone, ce n'est pas quelque chose qu'une famille retourne naturellement revoir.
Donc Retold, on enregistre une histoire où on importe une ancienne note vocale. L'app garde la vraie voix et dessine en même temps des bonshommes bâtons un peu bancales, le chien, l'éclaboussure, une petite pellicule synchronisée sur la voix. Chaque histoire rejoint ensuite l'étagère familiale. L'exemple sur leur site, le jour où mamie est tombée dans le canal, raconté par papy, contesté par mamie. Le grand-parent raconte au téléphone, un gros bouton rouge, pas de formulaire, pas de frappe, et les petits-enfants l'écoutent au coucher, dans une voix qu'ils reconnaîtraient entre mille.
L'app est en bêta sur iPhone, avec des tests fermés Android en cours. Côté prix, 5 histoires gratuites, puis 5,99 livres par mois, ou 39,99 par an, environ 77 pence par semaine, et les histoires restent à vous, même si vous arrêtez de payer. Fabriqué avec un crayon bancal en Grande-Bretagne, précise le pied de page.
Mais un commentateur a soulevé la question éthique qui pèse sur toute cette catégorie. La source, c'est souvent l'enregistrement de quelqu'un qui ne peut pas consentir à son utilisation après coup, surtout les vieux messages vocaux de personnes décédées. Quelle est la vraie politique de données? L'audio est-il traité, puis supprimé, conservé indéfiniment sur un serveur, jamais utilisé au-delà du film de cette famille-là? Une question importante et, pour l'instant, sans réponse claire dans les sources.
Troisième appli du trio, plus utilitaire, Commute-Bar. L'idée est née d'une mésaventure du créateur. Un matin, les routes avaient l'air dégagées, il est parti en pensant rentrer tôt, et 15 minutes plus tard, le trafic est arrivé, une fois qu'il était déjà dehors. Ce qui lui manquait, c'est un indicateur rapide dans son champ de vision, à côté de l'horloge, l'endroit où il regarde tout le temps. Pas une appli de plus à ouvrir.
Donc CommuteBar affiche les temps de trajet en direct dans la barre de menu du Mac. On sauvegarde plusieurs destinations, bureau, école, salle de sport, on programme la bascule automatique pour les trajets récurrents. Et on a des indicateurs, partez bientôt, / partez maintenant, avec notification optionnelle. Il y a aussi la comparaison d'itinéraires, les alertes de trafic retardé et plusieurs modes de transport.
Point pratique, la localisation reste sur le Mac, pas de compte ni de connexion, macOS 14 minimum, et une licence à vie sans abonnement, net et salué, notamment par un utilisateur qui, jusque-là, laissait Wazer tourner sur son téléphone tout en restant devant son ordinateur. Un commentateur a posé la question du quotidien réel. Un jour où vous avez un arrêt intermédiaire, déposez un enfant avant le bureau. La bascule automatique montre-t-elle la destination suivante dans la séquence? Ou faut-il basculer à la main? Encore une question ouverte.
Et pour finir ce trio, Kubrick. Le créateur, Zachary, le présente comme un petit projet passion. Une alternative à Letterboxd, sans les pubs, avec une vraie attention portée à l'expérience utilisateur. On cherche un film, on le note, on le met en file d'attente, on classe quoi regarder ensuite. Et dès le départ, il y a les séries TV, détails réclamés à corps et à cri, si on en croit les commentaires.
Le point de différenciation le plus intéressant, c'est le passage de la watchlist interminable qu'on n'utilise jamais à une file priorisée. Un commentateur dit exactement ça, classer ce qu'on regarde ensuite, plutôt qu'empiler, semble beaucoup plus pratique. Et il y a une fonction d'import fourre-tout pour ramener films et séries depuis presque n'importe où.
Une question technique importante de la communauté. Letterboxd utilise une échelle de 5 étoiles par demi-étoile. IMDb, une échelle sur 10. Certains trackers, des pouces hauts ou bas. Quand on importe des années de notes, Kubrick convertit-il l'échelle proportionnellement pour préserver les classements relatifs ou map-t-il grossièrement, vous obligeant à renoter pour corriger? Réponse non tranchée dans nos sources. Autre suggestion sympa, une file partagée pour les couples ou les amis où chacun ajoute des films et vote sur ce qu'on regarde ensuite. Au lieu de passer 30 minutes à se disputer sur quoi choisir, rigole le commentateur.
Et on termine avec deux outils qui raccourcissent le chemin entre une idée et le monde réel. Le premier, Brickforger AI. Vous tapez un prompt, un vaisseau spatial, une maison, un dragon, et vous obtenez un modèle de briques réellement constructible. Pas une jolie image de générateur Lego par IA qu'on ne peut ni acheter ni assembler.
Et le créateur insiste là-dessus. La génération d'images et de maillages 3D, c'est la porte d'entrée. La partie facile, achetée toute faite. Le vrai travail, c'est le moteur de placement des briques. Voxeliser la forme, la tuiler avec de vraies pièces compatibles Lego. Décaler les joints pour la solidité, pour que ça ne craque pas comme une pile mal empilée, puis lancer une analyse structurelle. Grave de connectivité, charge gravitaire, pour repérer les points faibles, et réparer automatiquement avant de vous livrer le modèle.
Le tout à partir d'une bibliothèque de 55 pièces réelles et achetables, avec une gamme d'angles de pente et de courbes pour des surfaces plus lisses, qui s'enrichit continuellement. Ils travaillent aussi sur des techniques comme le snot, construire sur le côté. Et selon eux, la plupart des modèles générés sortent avec 100% de connectivité et peu de problèmes signalés par le vérificateur de stabilité de Bricklink Studio. Livrable, un fichier, LDR, la liste des pièces, et un PDF d'instructions pas à pas. Plan gratuit avec 3 crédits par mois, on paye seulement pour télécharger le fichier.
Un utilisateur a résumé l'intérêt. Obtenir le fichier, la liste des pièces et le PDF ensemble. Ça transforme le résultat de quelque chose qu'on regarde en quelque chose qu'on s'assoit et qu'on construit. Et 2 suggestions de la communauté qui sentent bon la suite du produit. Une estimation du coût des pièces et surtout pouvoir dire « construis ça avec les briques que j'ai déjà dans ma collection ». Une précision légale à noter, pas affiliée au groupe Lego, qui est une marque de son propriétaire. La géométrie des pièces vient de la bibliothèque Eldraw, sous licence CCAL, 2 pu à 0 pu.
Et le deuxième outil de fin d'épisode, Postbox, pour les designers qui créent dans Figma mais détestent l'étape d'après. Jason, le fondateur, le dit lui-même. Il adore fixer chaque détail au pixel près, mais pas reformater et mettre en scène ses designs pour qu'ils soient engageants sur chaque plateforme sociale.
Sa solution, transformer l'encoche du MacBook en zone de glisser-déposer. On fait glisser un export, ou plusieurs, dans l'encoche, on écrit la légende une seule fois, et on publie vers X, Blueski, LinkedIn, Dribbble, Behance et Cosmos d'un coup. Threads, Instagram et Pinterest sont en cours de construction. Si on s'y connecte maintenant, ils commencent à poster dès que chacun arrive.
Il y a aussi une petite fonction Present. Disposer le visuel, appareil, mise en page, fond, marge, dans un canevas intégré au brouillon, sans rouvrir Figma. Et sans étape d'export, puisque la composition devient la pièce jointe. Côté sécurité, on se connecte sur la page de chaque plateforme, Postbox garde la session, jamais le mot de passe. Prix, gratuit à vie avec 5 postes tous les 30 jours et 2 Mac par licence, ou pro à 9,99$ par mois pour des postes et comptes illimités, avec 14 jours d'essai.
Les retours sont positifs sur l'interaction. Utiliser l'encoche comme espace de dépôt, c'est une utilisation vraiment maligne de l'espace mort. Mais un commentateur pose la vraie question. X, Instagram. Pinterest et LinkedIn veulent des ratios d'aspect différents et ont des limites de caractères différentes. Est-ce que Postbox adapte automatiquement le recadrage et raccourcit la légende par plateforme, ou est-ce le même export et le même texte partout, en acceptant un recadrage un peu maladroit sur certaines? Pas de réponse explicite dans nos sources. On note aussi des demandes de publications programmées et de posts combinant vidéo et texte.
Alors, pour refermer l'épisode, qu'est-ce qui relie tout ça? On a commencé avec des agents qui écrivent du code et des outils pour les sonder, les faire apprendre, les relire et les limiter. Et on a fini avec des applis qui font exactement la même chose pour nous, humains, verrouiller nos écrits avant qu'on les politise, ramener les souvenirs de dossiers cachés vers l'étagère familiale, supprimer la friction entre une envie et sa réalisation.
La logique de fond de ces 12 produits, c'est la même partout. Supprimer les étapes intermédiaires, le log manquant, le copier-coller entre terminaux, l'onglet en trop, le soir perdu à publier. Mais on a aussi vu que chaque suppression de friction soulève sa vraie question. Quelle donnée est capturée? Qui approuve? Qui peut réviser? Les meilleures questions des commentaires portaient presque toujours là-dessus.
On sera demain avec une nouvelle sélection. En attendant, vous savez quoi faire. Relisez vos notes de la journée avant 20h. Merci de nous avoir suivis. À très vite.
Salut à tous.